Maintenant, j'en viens à la présentation du conférencier de ce soir, Thomas Piketty. Donc, Thomas Piketty est né le 7 mai 1971. Il est directeur d'études à l'EHESS et chercheur à l'École normale supérieure au laboratoire de CEPREMAP. Il est docteur en économie. Il a eu sa thèse était intitulée, il l'a eu en 1993, Essai sur la théorie de la redistribution des richesses. Pour ce qui est de son parcours, il a été entre 1993 et 1995 professeur d'économie au département d'économie du MIT, le Massachusetts Institute of Technology. Il a d'abord été assistant professeur, puis associate professeur. Depuis, entre 1995 et 2000, il a été chargé de recherche au CNRS et chercheur au CEPREMAP. Depuis 1996, il est coéditeur du journal of Public Economics. En 1998, il est devenu membre de la Commission économique de Nation. En 1999, membre du Conseil d'analyse économique. Depuis 2000, il est directeur d'études à l'EHESS et chercheur au CEPREMAP. Pour ce qui est de ses publications, Thomas Piketty a publié trois ouvrages. Tout d'abord, Introduction à la théorie de la redistribution des richesses, qui est paru en 1994 aux éditions Economica. Puis en 1997, L'économie des inégalités, publié aux éditions La Découverte, Collection Repère. Il y a eu d'autres éditions, la dernière en 2001. Et enfin, son dernier ouvrage, Les hauts revenus en France au XXe siècle, Inégalité et redistribution 1901-1998, qui a été publié aux éditions Grasset en 2001. Et c'est surtout cet ouvrage qui est important pour la conférence de ce soir. Thomas Piketty a également publié de nombreux articles dans des revues économiques nationales et internationales. Et il est également, pour ceux qui disent Libération, ils le savent, il est également donc chroniqueur à Libération. Voilà, Thomas Piketty, je vous cède donc la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi pourra suivre un débat de 20 minutes avec le public. Je vous remercie.
Donc, la conférence de ce soir est véritablement issue de mon livre, donc les hauts revenus en France au XXe siècle, qui est donc un livre qui est paru donc aux éditions Grasset en septembre dernier. Donc dans ce livre, j'essaye en quelque sorte de raconter l'histoire des inégalités de revenus, de salaires et de patrimoine en France au cours du XXe siècle, sur l'ensemble du siècle écoulé. Donc il y a deux grandes questions auxquelles j'essaye de répondre. Une première qui est simplement une question de nature factuelle, c'est-à-dire tout d'abord comment ont évolué les inégalités de revenus, de salaires et de patrimoine en France au cours du XXe siècle, quelles sont les évolutions marquantes, quand se sont-elles produites. Et puis la deuxième question, évidemment, c'est comment rendre compte de ces évolutions, par quel mécanisme, avec quelle chronologie et quelle explication peut-on rendre compte de ces évolutions, et plus généralement, dans quelle mesure les différents gouvernements qui se sont succédés au cours du siècle écoulé étaient-ils conscients de ces évolutions? Ont-ils essayé d'influer sur elles? Dans quelle mesure y sont-ils parvenus? Et encore plus généralement, dans quelle mesure, disons, les représentations que l'on s'est fait à différentes époques des inégalités ont coïncidé, n'ont pas coïncidé avec les évolutions effectives telles qu'on peut les observer avec évidemment le recul du temps. Donc telles sont les principales questions auxquelles j'essaye de répondre. Et d'emblée, je voudrais tout de suite dire que moi, ce qui m'intéresse dans les revenus, les salaires, les successions, ce ne sont pas les chiffres en tant que tels pour le plaisir d'aligner des chiffres, ce sont vraiment les groupes sociaux qu'il y a derrière. Comme j'essaierai de le montrer, à toutes les différentes strates de la hiérarchie des revenus, des salaires, des patrimoines correspondent des groupes sociaux extrêmement différents, à la fois économiquement mais également sociologiquement. Et ce qui m'a vraiment intéressé dans cette recherche, c'est d'essayer de voir finalement comment ces différentes strates, ces différents groupes sociaux avaient traversé le siècle avec tous les chocs qu'on connaît, les guerres, les différents gouvernements, les Trente Glorieuses, la période la plus récente. Donc c'est vraiment une histoire, disons, une histoire du siècle à travers ces inégalités, bien plus qu'une histoire des inégalités de revenus au sens le plus étroit. Donc je vais tenter de vous présenter les principaux résultats, étant entendu que il me sera impossible de rentrer dans les détails, disons, de chaque période. Ces détails en pratique sont souvent assez intéressants, puisqu'on peut relire, disons, l'histoire de telle ou telle période. Je pense notamment à l'histoire extrêmement complexe, extrêmement chaotique de l'entre-deux-guerres et des années 30 en particulier, qui véritablement, à travers le prisme des inégalités, prennent un relief assez, assez intéressant. Donc je me concentrerai plutôt sur les évolutions de long terme, disons, plutôt que de me focaliser sur telle ou telle période particulière. Alors, avant de vous présenter ces résultats, bon, je ne voudrais pas passer trop de temps sur des questions de méthode, mais en même temps, je crois qu'il est important de dire d'où on parle et quels sont les matériaux, en quelques mots, qui ont été rassemblés pour cette étude, quelles sont les sources que j'ai utilisées. C'est d'autant plus important qu'au départ de cette recherche, bon, il y a les interrogations, évidemment, que je viens de décrire, mais qui sont des interrogations un peu permanentes, éternelles. Il y a surtout des sources permettant d'espérer répondre à ces interrogations. Donc ces sources, quelles sont-elles? Disons, les principales sources utilisées pour étudier l'évolution des inégalités sont les déclarations de revenus, les déclarations de salaire, les déclarations de succession. Donc trois grands types de sources correspondant à trois types de déclarations. Alors la première source, la plus importante, ce sont les déclarations de revenus. Et alors là, le point de départ, c'est une loi très importante, qui est la loi du 15 juillet 1914, qui crée l'impôt sur le revenu en France. Donc c'est une loi très importante, d'abord et avant tout, évidemment, dans l'histoire politique de la Troisième République. C'est une date tout à fait essentielle. Ça faisait déjà plusieurs décennies que l'impôt sur le revenu était au menu de chaque joute parlementaire, de chaque assemblée. Le principe de l'impôt progressif sur le revenu avait déjà été adopté par la Chambre des députés depuis presque 10 ans. Puis le Sénat bloquait la réforme, finalement, à quelques semaines de la déclaration de guerre, sous la pression des événements, en particulier sous les pressions budgétaires imposées par le réarmement, la loi des trois jours, etc. Finalement, le Sénat, le 15 juillet 14, accepte de voter au dernier moment l'impôt sur le revenu. Et l'impôt sur le revenu voit donc le jour en pleine guerre, s'applique pour la première fois au titre des revenus de 1915, c'est-à-dire pour la première fois des contribuables au printemps de 1916 en pleine guerre déposent leur déclaration. Et puis cet impôt s'est appliqué chaque année depuis lors. Il a changé de nom plusieurs fois, impôt sur le revenu des personnes physiques, impôt général sur le revenu, mais finalement, ça n'a aucune importance. La réalité concrète de la chose, à savoir des déclarations de revenus déposées chaque année au printemps, décrivant la totalité des revenus de l'année précédente pour tous les contribuables, cette réalité concrète s'est appliquée sans aucune discontinuité depuis les revenus de 1915, en particulier pendant chacune des années de la Seconde Guerre mondiale. Sous Vichy, l'impôt a continué de s'appliquer comme si de rien n'était. Alors, cette loi du 15 juillet 14, c'est une date importante dans l'histoire politique de la Troisième République, mais c'est aussi, bon, pour l'histoire plus modeste du chercheur que je suis, c'est également une date très importante parce que ça veut dire qu'à partir de cette date, on a une source sur les revenus, on a des déclarations de revenus. Avant 1914, c'est beaucoup plus difficile, c'est pour ça que c'est beaucoup plus difficile d'étudier l'évolution des inégalités au 19e siècle, parce que, en un mot, je rappelle simplement qu'avant 1914, donc il n'y avait pas d'impôt sur le revenu, ce qui tenait lieu d'impôts directs, c'était ce que l'on appelait les quatre vieilles, c'est-à-dire les quatre contributions directes créées par la Révolution française, et qu'on avait fini par appeler les quatre vieilles tellement elles devenaient vieilles, et qui étaient des contributions. Alors il y avait par exemple la contribution des portes et fenêtres, qui dépendait du nombre de portes et fenêtres de votre habitation principale, la contribution des patentes, donc avec un barème de patentes suivant la catégorie d'artisan ou d'entrepreneur à laquelle vous apparteniez. Dans tous les cas, il s'agissait surtout de ne pas demander, de pouvoir calculer, disons, le montant de l'impôt sans avoir à rentrer dans le domicile des gens et encore moins dans leur livre de compte. Il s'agissait d'être le plus non inquisitorial possible, c'est ainsi que les révolutionnaires avaient voulu la fiscalité. Alors la conséquence très concrète pour le chercheur, j'insiste sur ce point parce que c'est important de savoir un peu quels sont les matériaux dont on dispose ensuite lorsqu'on s'intéresse à ces questions. La conséquence pour le chercheur, c'est que pour le 19e siècle, on a toutes sortes de statistiques sur le nombre de portes et fenêtres, justement, par département, par tranche de nombre de portes et fenêtres. D'ailleurs, des statistiques qui ne sont pas sans intérêt. C'est intéressant de voir comment les conditions d'habitation évoluent au cours du temps. Mais bon, c'est tout de même beaucoup moins riche que les revenus eux-mêmes, qui sont quand même plus directement reliés aux conditions de vie des uns et des autres. Donc voilà, donc c'est là la première source importante, ce sont les déclarations de revenus depuis 1914, donc qui permettent de reconstituer pour l'ensemble de la période l'évolution de la hiérarchie des revenus en France. Alors, une limitation importante de cette source tient au fait que pendant longtemps, je ne sais pas si c'est lisible, pendant longtemps, seule une minorité de la population était imposable au titre de l'impôt sur le revenu. C'est toujours le cas, mais en fait, pendant très longtemps, c'était une toute petite minorité. Donc là, vous avez l'évolution de la proportion de foyers imposables au titre de l'impôt sur le revenu en France de 1915 à 1998. Donc actuellement, on est à environ 50%, hein, c'est le chiffre bien connu de 50% qu'on entend sur toutes les ondes, 50% des foyers payent l'impôt sur le revenu, 50% ne le payent pas. Juste pour fixer les ordres de grandeur, hein, actuellement, on a environ une trentaine, 32 millions de foyers en tout, donc il y en a 16 imposables, 16 non imposables. En gros, pour juste avoir les ordres de grandeur en tête, le revenu médian, c'est-à-dire le revenu qui sépare ces deux moitiés de la population, c'est à peu près 8 500 francs par mois. Donc en gros, il y a 16 millions en dessous de 8 500 francs qui ne payent pas l'impôt, 16 millions au-dessus qui le payent. C'est plus compliqué que ça parce que ça dépend de la situation de famille, évidemment, le seuil exact d'imposition. Bref, grosso modo, c'est ça la situation actuelle. Alors au début de notre histoire, il y en avait beaucoup moins. Au début de notre histoire, quand l'impôt sur le revenu a été créé, c'était vraiment fait uniquement pour imposer les revenus relativement élevés. Ça concernait 2-3% de la population. Et puis ça augmente très vite pendant la Première Guerre mondiale, du fait de l'inflation. Dans l'entre-deux-guerres, on se stabilise, disons, entre 10 et 20%. Donc ici, là, c'est la Seconde Guerre mondiale, là, c'est l'entre-deux-guerres. On a à peu près entre 10 et 20% de la population qui est imposable au titre de l'impôt sur le revenu dans l'entre-deux-guerres. Et c'est ensuite, pendant les 30 glorieuses, qu'on passe de 10-20% de foyers imposables à 50 et même 60% dans les années 70. On redescend ensuite de 60 à 50%, c'est en 1986, avec l'introduction de la décote qui a fait sortir un certain nombre de contribuables modestes du champ de l'impôt sur le revenu. Donc, pour résumer, je ne vais pas rentrer dans les détails de cette courbe, qui sont évidemment très heurtés parfois, à la mesure du chaos général qui a toujours représenté l'histoire politique de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire suivant les alternances politiques, suivant les décisions des uns et des autres d'augmenter les seuils d'imposition, de ne pas leur faire suivre l'inflation, etc. Tout ça peut bouger de façon extrêmement rapide. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails de cette histoire ici. Ce qu'il faut retenir simplement, c'est que sur longue période, les déclarations de revenus, en gros, ne me permettent de suivre que les 10% des revenus les plus élevés. Et c'est pour ça que ce travail s'appelle les hauts revenus en France au XXe siècle et non pas les revenus en France au XXe siècle. C'est parce que les déclarations de revenus permettent de suivre essentiellement les 10% des revenus les plus élevés sur l'ensemble de notre période. Alors ensuite, on peut comparer, et c'est ce que je fais et c'est ce que je vous présenterai tout à l'heure, l'évolution de ces 10% des revenus les plus élevés aux revenus moyens de l'ensemble de la population, imposable et non imposable, qui lui nous est donné par d'autres sources que les déclarations de revenus, qui nous est donné par des sources de type macroéconomique sur la masse des salaires, la masse des bénéfices. Donc ça nous est donné par d'autres sources et ça permet ensuite de calculer, et c'est ça l'indicateur véritablement utile de l'inégalité, de calculer la part de ces hauts revenus dans le revenu total. C'est-à-dire quelle est la part, aux différentes époques, quelle est la part du revenu total des Français qui est appropriée par les 10% des revenus les plus élevés. Alors, c'est une limitation importante de cette source. C'est-à-dire que cette source permet en gros d'étudier les inégalités entre le haut et la moyenne, mais pas par exemple entre le bas et la moyenne. En même temps, il faut bien être conscient que ce haut dont je parle ici, c'est-à-dire les 10% des revenus les plus élevés, le décile supérieur, comme on dit, de la hiérarchie des revenus, ça représente véritablement un monde en soi. Il faut surtout pas s'imaginer que je vais parler d'un petit groupe de millionnaires. Les 10% des revenus les plus élevés, il ne s'agit pas du tout de ça. Les 10% des revenus les plus élevés, actuellement, pour un foyer, ça commence à environ 22 000 francs par mois. Et alors évidemment, ensuite, ça monte énormément. C'est-à-dire que il faut dépasser 22 000 francs pour entrer dans les 10% des revenus les plus élevés. Il faut dépasser 50 000 francs pour entrer dans les 1% des revenus les plus élevés. Et ensuite, pour rentrer dans les 0,01% les plus élevés, il faut dépasser 4 millions de francs par an. Donc tout ça, il y a toute une graduation, évidemment. On peut dire, pour caricaturer un petit peu, que les 10% des revenus les plus élevés, ça va des classes moyennes, avec un grand nombre de paires de guillemets, jusqu'aux 200 familles, enfin, ou jusqu'à des revenus beaucoup plus considérables. Alors, je dis classe moyenne avec beaucoup de guillemets, parce que ça peut paraître très étrange d'employer une telle expression pour qualifier des revenus qui sont parmi les 10% des revenus les plus élevés. En même temps, c'est une expression qui, à tort, à raison, est souvent employée, justement, dans le discours politique, et c'est une première remarque importante, pour désigner, justement, des revenus du type 20 000 francs, 25 000 francs, 30 000 francs par mois. En tout cas, on a vu ce type d'usage de la catégorie classe moyenne, encore récemment, lorsque Lionel Jospin avait proposé, à tort ou à raison, je ne cherche pas à me prononcer, je décris les choses, avait proposé de plafonner le bénéfice des allocations familiales à 25 000 francs par mois, donc il s'agissait de dire que dorénavant, les allocations familiales seraient réservées aux ménages disposant de moins de 25 000 francs par mois. Et on a assisté à une très belle unanimité dans le corps politique, hein, de toutes tendances confondues, pour dire que c'était les familles moyennes, les classes moyennes qui allaient être matraquées par cette mesure. Donc très souvent, on emploie cette expression pour désigner ces groupes. Et on retrouve ça d'ailleurs à des différentes époques pendant tout le siècle. C'est très intéressant de voir comment là, il y a une certaine continuité dans l'usage de cette terminologie. Donc, au-delà de ce problème sémantique qui n'est évidemment très loin d'être neutre, le point important, c'est que, bon, je ne sais pas si les revenus à 25 000 francs sont des classes moyennes, mais ce qui est certain, c'est qu'ils s'opposent en tout aux revenus les plus élevés du décile supérieur de la répartition des revenus, non seulement par leur niveau, mais surtout par leur forme, par la composition des revenus en jeu. C'est-à-dire que les différents groupes sociaux qui composent ces 10% des revenus les plus élevés sont très différents quant à l'importance des différents revenus qu'elles perçoivent. Au début du décile supérieur, donc au niveau de 25 000 francs, 30 000 francs par mois, 90% des revenus sont des salaires. Donc il s'agit de groupes sociaux qui, dans ce sens au moins, sont bien dans la moyenne, c'est-à-dire que, comme le reste de la population, ils vivent essentiellement de salaires. Et puis, quand on monte dans la hiérarchie de ce décile supérieur, les choses s'inversent complètement, c'est-à-dire que les salaires deviennent minoritaires, et ce sont les revenus de patrimoine qui, au départ, n'étaient que des revenus d'appoint et qui deviennent les revenus majoritaires. D'accord ? Donc on a des groupes sociaux très différents vivant, pour caricaturer, pour simplifier, de leur travail ou de leur capital. Donc on a des réalités très différentes, et ce sont justement ces différentes strates sociales que je vais essayer de suivre tout au long du siècle et essayer de comprendre ce qui leur est arrivé, comment leur position par rapport aux autres a évolué, pourquoi, comment. Donc leur position non seulement par rapport à la véritable moyenne des revenus, mais également entre eux. Voilà un peu le programme. Alors, quels sont les faits saillants, justement, sur longue période, si on étudie l'évolution de ces hiérarchies de revenus? Et puis, je parlerai peut-être un tout petit peu à la fin, si j'en ai le temps, des successions. Je dis juste un mot à leur sujet tout de suite. Donc, je disais, une source très importante mobilisée dans cette étude sont les déclarations de revenus. Une autre source importante, ce sont les déclarations de succession, qui, elles, remontent à la loi du 25 février 1901, qui crée un impôt progressif sur les successions en France. Donc, de la même façon que la loi du 15 juillet 14 crée un impôt progressif sur le revenu, et donc à partir de cette date, on a des déclarations de revenus. La loi du 25 février 1901 crée un impôt progressif sur les successions, et à partir de cette date, on a des déclarations de succession. Il y avait un impôt sur les successions au 19e siècle, mais il était purement proportionnel, avec un taux très faible de 1%, et bon, les déclarations ne sont pas véritablement exploitables. Donc, je reviens aux revenus et aux inégalités de revenus, de salaires. Quels sont donc les faits saillants sur longue période concernant ces évolutions, ces hiérarchies sociales? Le premier fait marquant, disons, c'est la très grande stabilité à long terme des hiérarchies salariales. C'est-à-dire, si l'on se concentre uniquement sur les salaires, donc qu'on oublie un instant les revenus du patrimoine, sur lesquels je reviendrai dans un instant, si on se concentre sur les salaires proprement dit, on observe sur longue période, sur l'ensemble du XXe siècle, une très grande stabilité des hiérarchies salariales. Alors, je vous montre simplement ce que je veux dire par là. Si l'on regarde sur ce graphique, vous avez la part du décile supérieur de la hiérarchie des salaires dans la masse salariale totale. Et ici, vous avez la part du centile supérieur, c'est-à-dire des 1% des salaires les plus élevés. C'est-à-dire, vous prenez l'ensemble des salariés en France aux différentes dates, vous regardez les 10% des salariés qui ont les salaires les plus élevés et vous regardez quelle part de la masse salariale cela représente. Et on constate que les salariés à haut salaire, d'une certaine façon, ont toujours existé. Cette idée qu'on aurait eu à une certaine époque un salariat homogène, où en gros il y avait simplement des ouvriers à bas salaire et puis un salariat beaucoup moins diversifié qu'aujourd'hui, c'est une idée qui est fausse, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, sur les raisons un petit peu de ce décalage entre certaines représentations et la réalité. En vérité, les salariés à haut salaire ont toujours existé. Finalement, la hiérarchie des salaires a été très stable. Donc, si on prend la part donc, des 10% des salariés les mieux rémunérés dans la masse salariale totale, ça a toujours été de l'ordre de 26, 25, 26% sur l'ensemble du siècle. Si on prend la part des 1% des salariés les mieux rémunérés dans la masse salariale totale, ça a toujours été de l'ordre de 6, 7, 8%. Quand ce n'est pas 6, c'est 7, quand ce n'est pas 7, c'est 8, quand ce n'est pas 8, c'est 6, mais c'est toujours entre 6 et 8%. C'est extraordinairement stable. C'est tout de même très frappant, parce que les salaires, évidemment, au cours du XXe siècle, ont beaucoup progressé. Le pouvoir d'achat, en gros, a été multiplié par 5 sur un siècle, ce qui est tout de même assez considérable. Mais la hiérarchie, elle, n'a pas changé. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde a été tiré vers le haut, mais dans des proportions finalement à peu près similaires. Concrètement, ça veut dire quoi si on a 1% des salariés qui ont toujours entre 6 et 8% de la masse salariale totale? Ça veut dire que le salaire moyen de ces salariés est de l'ordre de 6, 8 fois le salaire moyen des autres. Ils sont 1%, ils ont 6, 8% de la masse salariale totale. Bon, c'est à peu près, ça fait, par définition, ça veut dire que leur salaire moyen est de l'ordre de 6, 8 fois le salaire moyen des autres. Et ça a toujours été comme ça, en 1900, 1930, 1950, 1980. C'est extrêmement stable sur longue période. Alors, c'est vrai non seulement si on regarde la position des hauts salaires par rapport à la moyenne des salaires, mais c'est aussi vrai si on regarde les écarts entre les plus bas salaires et les plus hauts salaires. Parce que là, sur les salaires, on a d'autres informations permettant d'étudier l'évolution des inégalités, non seulement entre le haut et la moyenne, mais sur l'ensemble de la hiérarchie. Et on observe également une assez grande stabilité. Alors, avant de revenir sur l'interprétation, il est important tout de même de préciser que cette très grande stabilité, on l'observe à très long terme. Mais sur courte période, sur moyenne période, ce qui, pour les contemporains qui vivent ces involutions, peut être le plus frappant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de changement. C'est-à-dire, on observe, en particulier durant chacune des deux guerres mondiales, on observe une forte compression des hiérarchies de salaires, liée au fait qu'on a une très forte inflation et seuls les bas salaires sont revalorisés parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et les hauts salaires, on leur demande d'attendre la fin du conflit. Donc la hiérarchie des salaires se comprime pendant chacune des deux guerres mondiales. Mais le fait est que pendant chacun des deux après-guerres, dans les années 20, puis ensuite à la fin des années 40, des années 50, se reconstituent les hiérarchies d'avant-guerre. Bon, de la même façon, on a une compression assez significative des hiérarchies de salaires entre 1968 et 1982-83, qui est due au fait qu'on a des très forts coups de pouce au salaire minimum pendant cette période, donc la hiérarchie se comprime, et puis ça s'arrête avec le tournant de 82-83. Donc il y a du mouvement, c'est pas un long fleuve tranquille, l'histoire des hiérarchies salariales. Il y a énormément de choses qui se passent. Simplement, sur long terme, toutes ces choses finissent plus ou moins par s'annuler, et il n'y a pas de tendance très claire, disons, sur longue période. Alors, c'est d'autant plus frappant que, par contre, et c'est là le deuxième fait marquant sur longue période, que par contre, les inégalités de revenus, elles, ont fortement diminué. Donc les hiérarchies de salaire, elles, sont restées très stables, mais les inégalités de revenus, elles, ont sensiblement diminué. C'est-à-dire que si on calcule maintenant la part des 10% des revenus les plus élevés dans le revenu total, donc c'est non plus la part des 10% des salaires les plus élevés dans la masse salariale totale, mais la part des 10% des revenus les plus élevés dans le revenu total, donc ça prend en compte non seulement les salaires, mais également les revenus de patrimoine, on observe une baisse significative entre le début et la fin du siècle. Alors une baisse significative qui, là encore, ne ressemble en rien à un long fleuve tranquille, c'est-à-dire qu'entre le 1900 et 1998, on n'a pas, c'est pas un processus lent, graduel, naturel, irréversible de diminution des inégalités de revenus. On a vraiment la marque des guerres qui est très forte, et je reviendrai là-dessus tout à l'heure, et puis depuis 1945, on a une phase de hausse des inégalités jusqu'en 1968, une phase de baisse entre 1968 et 1982-83, à laquelle j'ai déjà fait référence, et puis une phase de légère hausse dans les années 80-90. Toutes les dates charnières, j'insiste sur ce point, sont à chaque fois des dates éminemment politiques. Ici, vous avez 1936, 1945, 1968, 1982-83, donc je peux pas rentrer dans le détail de chacune des transitions, mais on voit bien qu'on a affaire à un processus qui est intimement lié à l'histoire politique du siècle. Alors, revenons à ce paradoxe ou à ce pseudo-paradoxe qui est pourquoi les inégalités de salaire sont restées très stables alors que les inégalités de revenus ont diminué. En fait, l'explication vient du fait que s'il est vrai que les inégalités de revenus ont diminué, en fait, c'est dû uniquement aux très hauts revenus de patrimoine. C'est-à-dire qu'en fait, si on décompose ces 10% des revenus les plus élevés qui, comme je le disais tout à l'heure, forment un groupe très hétérogène, puisque ça va grosso modo des cadres à 25 000 francs par mois jusqu'à des revenus de patrimoine de plusieurs millions de francs par an. Si on décompose justement ce groupe, on constate que les premières strates de ce groupe, finalement, n'ont pas baissé tout au long du siècle. Leur position par rapport à la moyenne, donc là, vous avez là, c'est la courbe concernant justement ces classes moyennes à 20, 30 000 francs par mois. Donc, ce sont si vous voulez, ça, c'est la moitié la plus pauvre des 10% les plus riches. Ce sont les gens compris entre ce sont les personnes compris entre le 90e et le 95e centile. Donc, c'est la moitié la plus basse des 10% des revenus les plus élevés. Eux, leur part dans le revenu total sur longue période n'a pas bougé. Et donc la baisse que je vous ai montrée juste avant, elle est uniquement due en fait au 1% des revenus les plus élevés, qui sont précisément les revenus qui vivent pour une très large part, surtout au début du siècle, de revenus de patrimoine. Donc autrement dit, la seule véritable compression des inégalités qu'on observe sur longue période, c'est cette effondrement de ce qu'on pourrait appeler, pour simplifier, les rentiers. Donc là, on a vraiment l'effondrement des rentiers entre 1914 et 1945. Hein. Ici, vous avez 1945. Et puis, ces rentiers qui ne se sont jamais complètement remis de ces chocs des années 1914-1945. Donc là, c'est vraiment ça qu'on a sur ce graphique. Alors, c'est une évolution tout à fait considérable. Bon, on passe du 21% du revenu national pour seulement 1% de la population au début du siècle, à 7-8% actuellement, c'est tout de même tout à fait considérable. 12-13 points de revenu national, c'est énorme. Et puis surtout, socialement, ça représente une évolution qui a eu une portée qui est tout à fait essentielle. Concrètement, l'effondrement des rentiers, ça veut dire quoi ? Il faut relativiser, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire que les très hauts revenus de patrimoine ont disparu. Aujourd'hui comme hier, si on monte, comme je le disais tout à l'heure, si on monte suffisamment haut dans la hiérarchie sociale, les revenus du patrimoine finissent toujours par devenir prédominants. Simplement, aujourd'hui, il faut monter beaucoup plus haut qu'hier, beaucoup plus haut qu'au début du siècle, pour que les revenus du patrimoine deviennent véritablement prédominants. Très concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous rencontrez par hasard quelqu'un dans la rue qui dispose de 50 000 ou 60 000 francs de revenus mensuels, il y a toutes les chances pour que ce soit un cadre supérieur disposant de 50 000 francs par mois de salaire et éventuellement de 4-5 000 francs par mois de loyer d'un appartement, d'un studio à Paris qu'il loue pour compléter ses fins de mois, mais ce sera essentiellement un revenu d'appoint. Il y a très peu de chances pour que ce soit quelqu'un qui dispose de 50 000 francs par mois de loyer provenant des appartements qu'il possède, ou 50 000 francs par mois d'intérêt provenant des obligations qu'il possède, ou de dividendes provenant des actions qu'il possède. Vous en connaissez peut-être, mais je suis sûr que vous n'en connaissez pas beaucoup, des gens qui ont 50 000 francs par mois de loyer, et c'est pas parce que vous ne les rencontrez pas, c'est simplement parce qu'il y en a objectivement très peu. Il y en a, mais il y en a très peu. Et alors, au début du siècle, c'était exactement le contraire. C'est-à-dire qu'un siècle avant, je prends ce chiffre de 50 000 francs parce que ça correspond à peu près, comme je l'ai dit au début, le seuil pour rentrer dans les 1% des revenus les plus élevés. Et bien, si vous prenez quelqu'un aux alentours de 50 000 francs par mois au début du siècle, enfin relativement au revenu moyen de l'époque, quoi, l'équivalent par rapport pour l'époque, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'il faut chercher le patrimoine. Il y a toutes les chances pour que ce revenu soit essentiellement issu d'un patrimoine immobilier, ça peut être des loyers, ça peut être des rentes sur l'État, ça peut être différents éléments de patrimoine, mais il y a toutes les chances pour que, pour dire les choses plus simplement, ce soit quelqu'un qui vive de ses rentes, quelqu'un qui, et non pas de son travail. Alors, c'est une transformation sociale tout à fait énorme et qui a grandement contribué dans les représentations à transformer, disons, la société française en une société fondée sur le travail, d'une certaine façon, on peut dire. C'est-à-dire que on a aujourd'hui la conscience du fait que, pour l'essentiel, les revenus les revenus les plus élevés sont des revenus de cadre supérieur, des revenus qui sont fondés sur le travail, alors qu'au début du siècle, on avait principalement le haut de la hiérarchie était principalement tenu par des personnes vivant de revenus d'un capital accumulé dans le passé. C'est une évolution qui, d'ailleurs, a beaucoup contribué, d'une certaine façon, à légitimer les inégalités. C'est-à-dire que, je crois, la raison centrale pour laquelle les inégalités sont beaucoup moins fortement remises en cause aujourd'hui qu'il y a un siècle, c'est parce que, justement, il y avait cette perception, il y a un siècle, d'un sommet de la hiérarchie qui était occupé par des personnes qui vivaient donc d'un patrimoine accumulé dans le passé, sans travailler. Et c'était évidemment la source de toutes les critiques radicales du capitalisme. Donc c'est une transformation qui est véritablement qui est très importante. J'ajoute un point. On pourrait dire que 1% de la population, c'est pas très important, mais en même temps il faut relativiser. C'est-à-dire que 1%, c'est à la fois pas très important et important. 1% de 32 millions de foyers, ça fait tout de même 300 000 foyers. On n'est pas du tout dans les 200 familles, on est dans 300 000, c'est tout de même très différent. Donc 300 000 foyers, 300 000 rentiers, disons pour simplifier, quand les personnes en question habitent plus ou moins dans la même ville, voire dans les mêmes arrondissements, bon, ça prend beaucoup de place tout de même. C'est un groupe social très, très visible, et donc ça a une très grande importance du point de vue de la représentation sociale des inégalités. Pour prendre un autre exemple, l'aristocratie en 1789, d'après les différentes estimations dont on dispose, représente à peu près 1% de la population. Donc on pourrait dire, bon, ça n'a finalement aucune importance, 1%. Bon, en fait, si, dans la structuration du corps social, dans la structuration des inégalités, c'est très important. Le fait qu'aujourd'hui, ce soit pratiquement impossible ou très rare de simplement rencontrer quelqu'un qui vit principalement de ses rentes, c'est quelque chose qui change beaucoup la perception du corps social. C'est pas un hasard si les rentiers étaient omniprésents dans la littérature du 19e siècle ou du début du siècle ou même encore un peu de l'entre-deux-guerres et ont pratiquement totalement disparu depuis. De même, c'est pas par hasard si la catégorie même de rentiers a disparu des recensements pour la première fois à partir de 1946. C'est-à-dire, c'est très intéressant de voir que dans tous les recensements menés jusqu'en 1936, sur les formulaires de recensement, vous avez la catégorie rentier. C'est-à-dire, pour vous identifier vous-même, vous avez le choix paysan, ouvrier, employé, rentier. Bon, c'est une catégorie, vous pouvez cocher la catégorie. Et puis en 1946, pour la première fois dans le recensement de 1946, on supprime cette catégorie. De toute évidence, l'agent recenseur risquait de se prendre son formulaire dans la figure s'il demandait aux personnes qui avaient été ruinées par l'inflation, par les guerres, s'ils étaient rentiers. Et donc cette catégorie disparaît et n'est jamais réapparu depuis. Alors, vous me direz, si tout ça, finalement, on le savait déjà, à quoi ça sert de le montrer, si finalement ça ne correspond à cette disparition des rentiers dont tout le monde était conscient. Alors, justement, à quoi ça sert de le montrer? D'abord, d'essayer de quantifier les choses, de voir dans quelle mesure ça correspond à un phénomène mesurable, quantifiable, et puis surtout d'essayer de comprendre comment ce processus s'est produit et pourquoi il s'est produit. Parce que, vous voyez, dans ce processus, d'une certaine façon, de transformation d'une société de rentiers en une société de cadres, ce processus de remplacement des rentiers par les cadres, puisque c'est bien de ça dont il s'agit, il y a plusieurs théories possibles, a priori. En particulier, il y a une théorie, disons, optimiste, selon laquelle ce processus serait le fruit d'une évolution graduelle, naturelle, technologique, selon laquelle inévitablement, les actionnaires bedonnants auraient été remplacés par les cadres compétents et méritants, simplement du fait d'une marche en avant irrépressible vers la rationalité technique, impliquant que les entreprises de plus en plus avaient besoin d'être gérées par des personnes compétentes et non pas par les détenteurs du patrimoine. Et donc, selon cette théorie, on aurait le passage, disons, d'une société de rentier à une société de cadre, ce serait le fruit d'un processus quasi naturel. Alors, le problème, c'est que cette théorie ne correspond absolument pas à ce qu'on observe. C'est-à-dire que si on observe les faits, si on observe l'évolution de cette structure sociale, de cette hiérarchie sociale, on n'a vraiment pas l'impression du tout d'avoir affaire à un processus naturel. On a d'abord une chronologie qui, comme je l'ai dit, ne ressemble absolument pas à un long fleuve tranquille. On a au contraire un effondrement des rentiers qui portent la marque des chocs des années 1914-1945, hein, qui portent la marque des guerres, qui portent la marque de la crise des années 30, qui portent la marque de l'inflation des années 14-45, donc un processus assez largement accidentel, du moins, enfin, qui n'est pas lié à l'évolution technologique lente des entreprises, de l'économie, qui est lié à des chocs politiques d'une nature très particulière. Donc on a cet effondrement dû à ces chocs, et ensuite on a une non-reconstitution. Alors c'est très important parce que, je vais en venir à la question de cette non-reconstitution des rentiers, le fait qu'on ne soit pas revenu en arrière, mais la première chose là sur laquelle il faut insister, c'est que, en une phrase, on pourrait dire que ce ne sont pas les cadres qui sont passés au-dessus des rentiers, ce sont vraiment les rentiers qui sont passés au-dessous des cadres. C'est-à-dire que les cadres, comme je le montrais tout à l'heure, avec la très grande stabilité des hiérarchies salariales, les cadres, en vérité, ont toujours existé. C'est-à-dire que les cadres n'ont pas attendu qu'on invente la catégorie sociale, la catégorie socio-professionnelle des cadres pour se mettre à exister. En tout cas, les cadres, ou plus généralement les salariés à haut salaire, qui pouvaient être simplement des techniciens supérieurs, il n'y avait pas forcément besoin d'être un ingénieur chevronné pour rentrer dans les 10% des salariés les plus élevés il y a un siècle, un technicien supérieur suffisait. Mais, donc toute la hiérarchie des qualifications, évidemment, était tirée vers le haut, mais le fait est que la structuration du corps salarial était finalement assez comparable dans le temps. Donc, dans ce sens, on peut dire, pour résumer, les cadres ont toujours existé, simplement l'effondrement des rentiers les a rendus plus visibles. Et là encore, l'évolution des catégories utilisées dans les recensements est très intéressante, parce que la catégorie de cadre apparaît pour la première fois dans les recensements avec le recensement de 1946. C'est-à-dire au même moment où on abandonne la catégorie des rentiers, on introduit la catégorie de cadre. Et c'est très frappant, parce que dans tous les recensements jusqu'en 1936, le mot même de cadre n'existait pas. Et dans les recensements, si vous étiez salarié, vous aviez simplement le choix entre ouvrier et employé. Et employé, ça regroupait aussi bien un serveur de restaurant qu'un directeur commercial d'une grande entreprise. Bon, c'était très vaste, mais ça ne veut pas dire pour autant que les cadres n'existaient pas. Simplement, on ressentait moins le besoin, d'une certaine façon, de mettre à jour ces hiérarchies internes au salariat, parce qu'on avait déjà sous la main un autre groupe social à désigner pour se représenter le haut de la société, d'une certaine façon, c'était les rentiers, les détenteurs de patrimoine, les 200 familles, que sais-je encore. Enfin, on avait des catégories qui paraissaient fonctionner très bien. Et puis, après la Seconde Guerre mondiale, là, c'est très différent. Les rentiers ont disparu et on a beaucoup plus besoin, disons, de mettre un nom sur ces catégories salariales supérieures, ces catégories de salariés qui se trouvent en haut de la hiérarchie du travail. Donc c'est bien plus la conséquence d'un besoin de représentation que la conséquence d'une évolution réelle interne au salariat. Donc ça c'est très important. Alors maintenant, venons-en à la question centrale, qui est pourquoi n'est-on jamais revenu en arrière ? C'est-à-dire pourquoi... Bon, l'effondrement des rentiers est facile à comprendre. Les guerres ont provoqué des destructions de patrimoine tout à fait considérables. Donc, bon, les personnes qui possédaient rien ne perdent rien, les personnes qui possèdent beaucoup perdent beaucoup. C'est un mécanisme de redistribution tout à fait trivial, mais extrêmement puissant. Et donc, bon, c'est un premier facteur. Les faillites des années 30 sont tout à fait considérables. Donc beaucoup de patrimoine professionnel accumulé au 19e siècle jusqu'en 14 ou dans les années 20 sont détruits. Et puis l'inflation également très importante entre 1914 et 1945. Donc ça, cette phase-là est facile à expliquer. La phase plus importante, c'est celle-ci. Et alors là, bon, on peut chercher différentes explications, mais disons l'explication qui semble de très loin la plus convaincante, c'est l'irruption sur la scène de l'impôt progressif sur le revenu et de l'impôt progressif sur les successions. C'est-à-dire que avant 14, les très hauts revenus de patrimoine qu'on observe à la veille de 14 sont issus de patrimoines qui ont été accumulés dans un monde sans impôt, essentiellement, sans impôt progressif. Il n'y avait pas d'impôt sur le revenu. L'impôt sur les successions, pendant tout le 19e siècle, son taux était de 1%. Donc, quoi qu'il arrive, vous transmettez 99% du patrimoine à la génération suivante. En 1901, on crée un impôt progressif sur la succession, mais enfin, la tranche la plus élevée, c'est 2,5%. Donc, Donc, quoi qu'il arrive, vous transmettez 97,5%. Donc, essentiellement, l'impôt n'existe pas jusqu'en 1914. L'impôt progressif n'existe pas. À partir, après les chocs des années 1445, les conditions nouvelles auxquelles font face les détenteurs de patrimoine pour essayer de reconstituer des patrimoines d'un même niveau sont complètement différentes. C'est-à-dire qu'un impôt progressif est apparu, un impôt progressif sur les successions est apparu, un impôt progressif sur le revenu est apparu. Alors, c'est un choc d'une ampleur tout à fait considérable. Juste pour donner une idée de l'ampleur du choc, ici, vous avez le taux marginal supérieur de l'impôt sur le revenu en France de 1915 à 1998. Donc, actuellement, c'est à peu près c'est 52%. Enfin, en 1998, c'était 54%, ça a un petit peu baissé depuis. Au début de l'affaire, en 1915, c'était 2%. Et ça paraissait tout à fait exorbitant lorsqu'il s'agissait de le voter, la loi du 15 juillet 14. D'ailleurs, ça avait été repoussé par le Sénat pendant 10 ans. En 1924, moins de 10 ans plus tard, c'est 90%. C'est-à-dire, en moins de 10 ans, on passe donc d'un impôt inexistant à un impôt quasiment spoliateur pour des revenus très élevés. Évidemment, ce taux ne s'applique que pour des revenus très, très élevés. Que s'est-il passé entre les deux ? Alors, c'est d'autant plus remarquable, enfin remarquable, je ne sais pas, enfin c'est d'autant plus c'est digne d'être remarqué, disons, que le gouvernement qui fait voter cette très forte hausse des taux au lendemain de la Première Guerre mondiale, ce n'est pas le cartel des gauches qui arrive au pouvoir en 1924, c'est le Bloc national. C'est-à-dire un gouvernement qui s'appuie donc sur des groupes parlementaires qui, quelques années plus tôt, avaient refusé de voter l'impôt sur le revenu à 2%. Et qui, au début des années 20, vote l'impôt sur le revenu d'abord à 60% et finalement à 90%, enfin, comme taux supérieur. Alors, c'est une transformation assez ahurissante. Que s'est-il passé ? Ben, évidemment, il s'est passé la Première Guerre mondiale, qui a mis les finances de l'État dans un état lamentable. Le déficit est énorme. On fait marcher la planche à billets tous les matins. Les salaires ouvriers n'ont toujours pas retrouvé en 1920 leur pouvoir d'achat de 1913. Il y a eu la Révolution russe. Il y a eu beaucoup de choses qui s'est passé. Et il paraît évident, dans un contexte économique aussi dégradé, qu'il faut demander un effort aux revenus les plus élevés. Et donc, on demande un effort. Et finalement, on arrive à un taux de 90%. Alors, par la suite, il y aura beaucoup de mouvements. De façon générale, l'histoire politique de l'impôt sur le revenu, c'est une histoire qui n'avait jamais vraiment été étudiée et que j'ai essayé de raconter dans mon livre. C'est une histoire assez passionnante parce que, au-delà des taux d'imposition, ce que les différents gouvernements ont voulu faire, et il y en a eu beaucoup, c'est une histoire très chaotique, ce que les différents gouvernements ont voulu faire avec l'impôt sur le revenu, c'est souvent un extraordinaire révélateur de la vision des inégalités qu'avaient ces différents gouvernements. Là, je vous montre uniquement les taux d'imposition, mais en fait, évidemment, il y a beaucoup d'autres règles à prendre en compte. Juste pour prendre un exemple, pendant la période de Vichy, on a par exemple une surtaxe, enfin une majoration d'impôt qui s'appelle la taxe de compensation familiale, qui consiste à majorer de 30% l'impôt des couples mariés qui, au bout de 2 ans de mariage, n'ont toujours pas eu d'enfants. C'est quand même un instrument de politique sociale tout à fait remarquable. Donc c'est simplement un exemple pour vous dire que chaque gouvernement exprime vraiment beaucoup de choses dans la législation de l'impôt, et ça, quelle que soit sa couleur politique. Disons, c'est toujours un révélateur très intéressant. Et pour la petite histoire, il est intéressant de remarquer que cette majoration, en vérité, n'est pas supprimée en 1945. C'est-à-dire que quand le gouvernement provisoire arrive, il décide simplement de faire passer le délai de grâce de 2 ans à 3 ans. C'est-à-dire qu'à partir de 1945, la majoration concerne les couples mariés qui, au bout de 3 ans de mariage, n'ont toujours pas eu d'enfants. Finalement, ce sera supprimé en 1952. Mais ça subsiste à Vichy sous une autre forme. Donc, tout ça pour dire que cette courbe très chaotique, elle est le fruit d'une histoire politique très chaotique. Ici, vous avez 1968, 1981. Bon, vous avez. Je ne vais pas rentrer dans les détails. La chose à retenir, c'est que. Il y a eu beaucoup de mouvements depuis 1920, 1924, mais on n'est jamais revenu au taux, considéré comme raisonnable à la veille de la guerre de 14. On est toujours resté avec des taux s'appliquant aux revenus les plus élevés, de l'ordre de. Bon, à part. Ici, c'est Poincaré en 1926 qui redescend à 40%, mais ça remonte en 1936. À part ce court épisode des années 30, on est toujours à des niveaux de l'ordre de 60-70%. Et actuellement, en fait, à un des niveaux les plus faibles appliqués depuis les années 30. Donc ça, c'est un choc d'une ampleur tout à fait considérable. C'est-à-dire que même si ces taux, évidemment, ce taux-là s'applique uniquement, uniquement à des revenus très élevés, donc pour étudier de façon plus détaillée cette hypothèse, il faut évidemment calculer les taux effectifs subis par les uns et par les autres, par les différents groupes sociaux considérés. Et si l'on fait cette étude, dont je ne peux pas vous présenter tous les résultats ici, on aboutit à la conclusion que ce facteur structurel suffit à expliquer, suffit à lui seul à expliquer le fait que donc on n'ait jamais eu de retour en arrière et on soit jamais revenu à la société de rentiers d'avant 1914. Donc, en conclusion, enfin, je ne sais pas très bien combien de temps vous voulez me laisser. 10-15 minutes. Donc j'ai le temps de présenter deux trois autres choses. En particulier, je crois qu'il faut être clair sur le fait qu'on a là, on a un processus très très complexe, donc de non reconstitution d'une société de rentiers, de revenus de patrimoine suffisamment importants pour pouvoir en vivre. Bon, il est impossible de démontrer avec certitude que le seul facteur qui a joué, c'est l'impôt progressif. D'ailleurs, il est probable que d'autres facteurs ont joué. Donc, ce qu'il est possible de démontrer, pour être précis, comme je le disais, c'est que ce facteur suffit à lui seul à expliquer l'ampleur, disons, si on fait des simulations sur les stratégies d'épargne des uns et des autres, il suffit à expliquer l'ampleur du phénomène observé. Ça ne veut pas dire que d'autres facteurs n'ont pas joué, ça veut dire qu'on n'en a pas besoin. Et puis, j'insiste sur un point, c'est qu'il n'est pas si facile que ça de trouver d'autres facteurs explicatifs pour cette évolution. En particulier, c'est un point sur lequel je voudrais... Dernier point important sur lequel je voudrais insister, on n'assiste aucunement au cours du XXe siècle à une disparition des revenus du capital dans leur ensemble. C'est-à-dire qu'au niveau macroéconomique, si on prend sur l'ensemble de la société française en moyenne, la part des revenus de patrimoine dans le revenu total des Français est sensiblement le même aujourd'hui que ce qu'il était en 1913. Donc ce qui a changé, c'est la concentration des revenus du patrimoine. C'est-à-dire, ce qui a changé, c'est le fait que un groupe de personnes disposant de patrimoine suffisamment important pour pouvoir en vivre est beaucoup plus étroit. C'est-à-dire que la répartition de ces revenus de patrimoine a changé. Parce que pour un même montant global de revenus de patrimoine, suivant comment ils sont répartis, suivant si vous avez, pour simplifier, 20 millions de livrets A ou 200 actionnaires, évidemment, vous pouvez avoir le même montant global de revenus de patrimoine et puis une répartition totalement différente avec des conséquences sur la structure sociale complètement différentes. Donc ça, c'est un point important à insister, cette stabilité, disons, du partage global capital-travail au niveau macroéconomique. Je ne peux pas résister à la tentation de vous le montrer parce que c'est quand même quelque chose d'assez frappant. Ici, là, sur ce graphique, vous avez le partage, justement, entre revenus du travail et revenus du capital, de la valeur ajoutée des entreprises en France. Alors la valeur ajoutée, c'est un mot un peu barbare, ça veut simplement dire la production des entreprises nette de ce que ces entreprises ont acheté à d'autres entreprises, donc c'est vraiment la valeur qu'elles rajoutent dans le processus de production. Cette valeur ajoutée, on peut la partager entre ce qui va au travail, c'est-à-dire les salaires, les cotisations sociales, etc., et puis ce qui reste une fois que le travail a été rémunéré, c'est-à-dire les profits au sens le plus large, c'est-à-dire que dans ces profits, il y a une part importante de ce qu'on appelle des profits non distribués aux actionnaires, c'est-à-dire des profits qui servent simplement à reconstituer l'équipement qu'il faut remplacer, etc. etc. Alors, qu'observe-t-on ? On observe que la part du travail est toujours de l'ordre de 2/3, 65-70% de la valeur ajoutée, la part du capital toujours de l'ordre de 1/3, 30-35%. C'était le cas en 1913, c'est le cas en 1998. Alors il y a un point ici, là, vous voyez, qui fait un peu exception. Là, c'est la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, c'est 1944-1945, où la part du capital est extrêmement faible, 10%. Bon, ça s'explique très très bien, c'est des circonstances très particulières. La production en France n'a jamais été aussi faible qu'en 1944-1945. Tout le monde est occupé à se battre ou à se cacher, enfin bon, en tout cas pas à produire. Donc la production est très faible et en même temps le gouvernement provisoire vient d'augmenter de façon assez importante les salaires, donc forcément il ne reste plus grand-chose pour le capital. Mais bon, c'est une phase très particulière et quelques années plus tard, on revient, disons, au niveau d'avant-guerre. D'accord ? Alors, si on regardait non pas... le partage de la valeur ajoutée des entreprises, mais qu'on regardait également la part des revenus du capital dans les revenus des ménages, parce que comme je le disais, tous ces profits ne sont pas distribués aux ménages, puisque vous avez également des profits non distribués, on observe la même chose, c'est-à-dire que là, vous avez la même courbe, et j'ai simplement rajouté en bas la part des revenus du capital dans le revenu des ménages. Alors, on constate qu'effectivement, il y a eu une phase au milieu du siècle où cette part était plus faible qu'au début du siècle. Au début du siècle, elle était environ 20%, c'est-à-dire si vous additionnez tous les intérêts, les dividendes, les loyers reçus par les ménages, ça représente à peu près 20% du revenu total des ménages. À la fin des années 90, c'est également environ 20%. Alors, au milieu du siècle, c'était plutôt 10-15%. C'était dû au fait que dans toute la période de reconstruction, les profits non distribués des entreprises sont très importants, parce que, bah, justement, il faut reconstruire. Donc, les profits, les entreprises ne distribuent qu'une partie plus faible que d'habitude de leurs profits pour le réinvestir directement. Mais ça, bon, c'est une phase qui s'est terminée. Finalement, dans les années 80-90, les revenus de patrimoine se sont reconstitués au niveau de 1913. Mais ça n'empêche que les rentiers, enfin du moins la très forte concentration des patrimoines observés au début du siècle, elle ne s'est jamais totalement reconstituée. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe très bien au niveau des déclarations de succession. C'est-à-dire qu'on observe très bien que les successions les plus élevées ne se sont jamais complètement remises des chocs des années 1445. C'est-à-dire que le niveau absolument énorme de concentration des successions qu'il y avait au début du siècle, à la veille de la Première Guerre mondiale, ne s'est jamais totalement retrouvé. Les patrimoines restent évidemment toujours très concentrés. Et les patrimoines sont toujours très concentrés. Simplement, ils étaient beaucoup plus fortement concentrés à la veille de la Première Guerre mondiale, où vraiment le niveau quand on voit le nombre et le niveau des successions d'avant 14 en France, on a vraiment l'impression qu'il y a un zéro ou deux zéros de trop. Enfin, c'est quelque chose d'absolument étonnant. C'est d'ailleurs intéressant de noter que ça avait joué un rôle important dans le débat politique de l'époque, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, l'impôt sur les successions a été créé avant l'impôt sur le revenu, 1901 pour le premier, 1914 pour le deuxième. Et donc à partir de 1901, il y avait des statistiques issues des déclarations de succession, et ces statistiques ont joué un rôle important dans la création de l'impôt sur le revenu, parce que un argument qui était souvent donné à l'époque en France contre l'impôt sur le revenu consistait à dire « Oh, vous savez, l'impôt progressif, ça, c'est bien dans une société très fortement inégalitaire, hiérarchisée, comme par exemple le Royaume-Uni, mais nous, dans la France républicaine, où la propriété est morcelée à l'infini, où nous qui sommes un pays de petits propriétaires, finalement, à quoi ça sert d'avoir un impôt progressif, puisque tout le monde est à peu près au même niveau ?» Tout ça, c'est un argument très, très fort entendu dans les hémicycles parlementaires du début du siècle. Et alors, en 1907, Joseph Caillaux arrive à la tribune de l'Assemblée, donc ministre radical des Finances, qui allait être un des promoteurs de l'impôt sur le revenu. Il arrive avec les premières statistiques issues du nouvel impôt progressif sur la succession. Il donne les chiffres sur le nombre de successions supérieures à 50 millions, 100 millions, 200 millions de l'époque. Et il constate, bon, messieurs, on a un petit peu exagéré, quoi, la propriété morcelée à l'infini. Si on compare avec les statistiques britanniques de la même époque, on se rend compte que finalement, comme niveau de concentration des successions, c'est très comparable. Et pour la bonne raison que les patrimoines importants de 1914, déjà, sont des patrimoines presque exclusivement mobiliers. C'est-à-dire que la terre ne compte plus depuis longtemps. Donc, si on regardait simplement la terre, évidemment, on trouverait que la concentration de la terre était plus forte en Royaume-Uni qu'en France. Parce qu'en France, il y avait eu la Révolution, etc. Mais du point de vue du patrimoine mobilier, c'est-à-dire des actions d'entreprises industrielles en bourse, etc., bon, il n'y avait aucune raison de s'attendre, finalement, à ce que un siècle ou un demi-siècle d'accumulation capitaliste sans impôts dans la France républicaine conduise à une concentration des patrimoines plus faible que dans l'Angleterre monarchique. C'est pas vraiment pertinent. Et de fait, on trouve des niveaux, finalement, très, très très comparables. Et donc des niveaux qu'on n'a jamais retrouvés par la suite. Donc la conclusion, c'est que cette disparition des revenus du patrimoine, des très hauts revenus de patrimoine et des très hauts patrimoines, ça ne correspond pas du tout à une disparition des revenus du patrimoine ou du patrimoine en général. Au niveau agrégé, hein, au niveau de l'économie de la société française prise dans son ensemble, les patrimoines sont toujours aussi importants aujourd'hui qu'il y a un siècle. Si on prend l'ensemble des patrimoines des Français et qu'on divise ça par le revenu des Français, donc au niveau toutes catégories sociales confondues, on trouve un rapport de l'ordre de 5. C'est-à-dire qu'en moyenne, le patrimoine représente 5 années de revenus, avec des disparités énormes, évidemment. Certains, beaucoup n'en ont pas du tout. Et certains... Mais en moyenne, c'est à peu près 5. Et c'était déjà le cas en 1913. C'est-à-dire qu'on a, à peu près, le patrimoine a à peu près la même importance globale aujourd'hui qu'il y a un siècle. Simplement, j'insiste sur ce point, sa répartition a changé. Alors, sa répartition a tellement changé, et je finirai là-dessus, sa répartition a tellement changé que, d'une certaine façon, on peut dire que oui, l'impôt progressif a tellement bien marché que l'on ne sait plus très bien à quoi il sert. Et on en oublie presque, à la limite, à quoi il sert. C'est-à-dire qu'il a tellement bien rempli son rôle tel que le pensaient ses promoteurs à l'époque. Parce que quand l'impôt sur le revenu a été créé, on pensait vraiment presque exclusivement en termes de revenus du patrimoine. Il est intéressant, de ce point de vue-là, de noter que Caillaux, lui encore, quand on lui demandait, mais finalement, votre impôt sur le revenu, combien d'argent il va rapporter? Parce qu'on n'a jamais eu de déclaration de revenu dans ce pays, donc comment on va faire? On bascule dans l'inconnu, vous supprimez notre bonne vieille contribution des portes et fenêtres, ça on sait combien ça rapporte, vous mettez un impôt sur le revenu, combien d'argent ça va rapporter? Et Caillaux disait, écoutez, c'est pas difficile, on prend les déclarations de succession, ça nous permet de calculer approximativement le nombre de patrimoine de tel ou tel montant qu'il y a en France, on suppose que les gens, ça leur rapporte 4-5% par an, de revenus, leur patrimoine, et avec ça, on calcule le nombre de revenus qui vont être soumis à l'impôt sur le revenu. Autrement dit, l'idée même qu'il puisse y avoir des salariés, des revenus du travail qui rentrent dans l'affaire, ça ne lui venait même pas l'idée. Et personne n'en parlait. Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu, à l'époque, dans l'esprit des gens, c'était uniquement des revenus de patrimoine. Donc c'était vraiment ça qu'on avait en tête. Et de fait, ils n'avaient pas totalement tort. D'ailleurs, ils ne se sont pas plantés tant que ça dans leur prévision de recettes en faisant ce calcul extrêmement approximatif. Donc ce que ça veut dire, c'est que c'est vraiment ça que les créateurs de l'impôt progressif avaient en tête. Et d'une certaine façon, ça a très bien marché. C'est-à-dire ça a tellement bien marché qu'aujourd'hui, lorsqu'on pense à impôt sur le revenu, personne ne pense à revenu du patrimoine, ou on y pense comme à une cerise sur le gâteau. Mais fondamentalement, quand on pense à l'impôt sur le revenu, on se dit qui paye l'impôt sur le revenu et combien peuvent rapporter tel ou tel changement de législation de l'impôt sur le revenu, tout le monde sait bien, tout le monde sent bien, même sans regarder la moindre statistique, que ce sont pour l'essentiel des cadres, disons des salariés supérieurs, qui payent l'impôt sur le revenu et qui assurent finalement le financement de l'État, de la redistribution. Et je crois que ça explique en partie la très forte remise en cause de l'impôt progressif à laquelle on assiste aujourd'hui. C'est que d'une certaine façon, oui, l'impôt a tellement bien marché que son argument traditionnel concernant l'accumulation du capital et le fait qu'il faut limiter la concentration du patrimoine paraît totalement dépassé. Et bon, un cadre aujourd'hui qui a l'impression de payer trop d'impôts, si on lui explique que tout ça c'est pour empêcher qu'il y ait des très fortes accumulations de patrimoine par des rentiers, à la limite ne comprend pas de quoi on lui parle. Mais alors justement, je crois qu'une des leçons de cette analyse historique, c'est que l'impôt a tellement bien marché qu'on ne sait plus à quoi il sert, mais en même temps, si on le supprimait, on pourrait effectivement à terme revenir au point de départ. C'est-à-dire que la principale leçon de cette analyse historique, c'est que cette diminution des inégalités dans le long terme n'est en aucune façon le fruit d'un processus irréversible. Il est la conséquence de circonstances bien particulières, de circonstances historiques bien particulières, d'institutions bien particulières, et très concrètement, par exemple, si on abaisse très fortement l'impôt progressif sur le revenu, si on supprime l'impôt progressif sur les successions, comme le propose George Bush aux États-Unis, comme l'a réalisé Berlusconi en Italie et comme certains le proposent aujourd'hui en France, il serait très étonnant, en quelques dizaines d'années, que l'on ne reconstitue pas un groupe de rentiers qui pourrait, en importance, gagner et rattraper celui du début du siècle. Donc voilà un peu les mots sur lesquels je voulais conclure.
Oui, bonsoir monsieur, je vous remercie de cet exposé. Et je voudrais néanmoins insister sur un point que vous avez passé sans donner de précision. à savoir, est-ce que vous pourriez nous donner quelques indications sur le taux effectif d'imposition, sur l'évolution du taux effectif d'imposition des déciles et centiles supérieurs du revenu?
Et je vous renvoie au chapitre 6, page... Non. Non, je ne vais pas faire ça. Disons, la chose à retenir, hein, c'est que il faut vraiment monter... Ça a toujours été le cas. C'était encore plus le cas au début du siècle, mais ça reste le cas, que pour atteindre des taux effectifs s'approchant du taux marginal supérieur, c'est-à-dire pour atteindre des taux effectifs de l'ordre de 40%, 50%, il faut vraiment aller dans les strates supérieures du centile supérieur de la hiérarchie des revenus. C'est-à-dire qu'il faut des revenus de plusieurs millions de francs. Disons, à 3-4 millions de francs, on dépasse 40% de taux effectif. Par exemple, juste pour fixer un ordre de grandeur, si vous êtes ce cadre supérieur de 50-60 000 francs par mois, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était un rentier au début du siècle et qui est devenu un cadre. À ce niveau-là, en moyenne, le taux effectif d'imposition actuellement, toute situation familiale confondue, etc., en moyenne, c'est de l'ordre de 16%. Et vous êtes là au début des 1% des revenus les plus élevés. Donc d'une certaine façon, oui, enfin, après 16%, là, on peut trouver que c'est trop élevé, que c'est trop fort, bon, mais le fait est que c'est très différent de 50%. Bon, c'est aussi très différent de 0%, mais d'une certaine façon, c'est plus près de 0% que de 50%. Donc d'une certaine façon, là, il y a plus de différence entre la moyenne et puis le début des 1% des revenus les plus élevés que le début des 1% des revenus les plus élevés. Le haut des 1% des revenus plus élevés. Donc l'impôt progressif a toujours été conçu dès son origine, on peut s'en féliciter, on peut le regretter, a toujours été conçu depuis son origine comme un impôt destiné à devenir lourdement progressif que pour des revenus très élevés.
Ma question se pose en deux éléments différents qui sont quand même convergents. Premier élément, quel est l'effet des différents systèmes de défiscalisation du capital, comme les ordinaires, par exemple. Et d'autre part, quelle est la distorsion qu'introduit dans ce que vous voyez l'utilisation des paradis fiscaux? Parce que je pense que ce n'est pas négligeable.
Oui, alors c'est une question, c'est une question très 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 importante bon, moi qui m'a pris beaucoup de temps, j'ai vraiment essayé d'y répondre. Il y a chapitre entier du livre qui est consacré à cette question, qui s'intitule « La fin des rentiers est-elle une illusion fiscale ?» C'est-à-dire dans quelle mesure des stratégies de manipulation fiscale, d'évasion, de paradis fiscaux pour éventuellement masquer certaines choses. Donc j'ai vraiment essayé d'y répondre. Bon, ça ne veut pas dire que j'ai toutes les bonnes réponses, mais j'ai vraiment essayé d'y répondre. La principale réponse que je peux vous faire, c'est que la réalité dont je parle là ne concerne pas quelques centaines de personnes, ni même quelques milliers de personnes, mais plusieurs centaines de milliers de personnes. Et si vous aviez 300 000 foyers aux îles Caïmans, ça se saurait. C'est-à-dire que ce dont je parle là, vous voyez, c'est vraiment la transformation que j'ai décrite un moment dans mon exposé, c'est-à-dire le fait que des rentiers à 50 000 francs par mois, donc pas des énormes rentiers, mais des rentiers honorables, vous en trouvez beaucoup moins. Et ça, si vous voulez, c'est une transformation sociale qui est perceptible, d'ailleurs, avec plein d'autres indicateurs sociologiques qu'avec ces indicateurs de revenus, et donc qui, je crois, vraiment correspond à une transformation tout à fait véritable. D'un point de vue un tout petit peu plus technique, ce qu'on peut faire dans les séries statistiques pour corriger de ces effets, c'est d'essayer de voir, de comparer l'ampleur, disons, de la fraude ou de l'évasion fiscale à différentes époques du siècle, parce que la fraude, l'évasion fiscale, les paradis fiscaux, ils n'ont pas attendu aujourd'hui pour exister. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y avait sans doute beaucoup plus de fraude, en particulier sur les revenus de patrimoine, dans l'entre-deux-guerres et au début du siècle, encore qu'il y en a aujourd'hui. Il faut voir que dans l'entre-deux-guerres en particulier, le fisc avait pratiquement aucune capacité de contrôle des revenus de patrimoine. C'est-à-dire les banques n'étaient même pas tenues de transmettre au fisc l'identité des personnes à qui on versait des dividendes ou des intérêts. Aujourd'hui, si vous voulez, il est impossible d'avoir une participation importante dans une entreprise ayant pignon sur rue. Bon, dans le secteur mafieux, c'est une autre histoire, hein, je ne parle pas des revenus mafieux, hein, mais disons, il est impossible d'avoir une participation importante dans une entreprise ayant pignon sur rue et de ne pas déclarer les dividendes correspondants. Évidemment, vous pouvez choisir d'aller habiter aux îles Caïmans, sauf qu'il n'y a pas 300 000 personnes, une fois de plus, hein, qui 300 000 foyers qui sont aux îles Caïmans. Donc, c'est là, s'il s'agissait d'une évolution concernant quelques centaines de personnes, je vous dirais immédiatement oui. Il y a un problème, et d'ailleurs, je n'aurais pas écrit ce livre. Mais il s'agit d'une évolution qui concerne des groupes vraiment beaucoup, beaucoup plus vastes. Et donc, c'est un élément important de réponse. Concernant la première question, juste en un mot, les régimes de détaxation, effectivement, ont acquis beaucoup d'importance, de détaxation de certains types de revenus de patrimoine, ont acquis une grande importance depuis la Seconde Guerre mondiale. Il est intéressant de voir que c'est quelque chose qui n'existait pas du tout au début du siècle, c'est-à-dire qu'au début du siècle, les patrimoines, les revenus du patrimoine dégageaient une telle impression de prospérité que ça serait venu à l'idée de personne d'exonérer telle ou telle forme de revenus de patrimoine. Et ces mécanismes de détaxation sont apparus dans les années 50-60 pour essayer de donner de l'air au patrimoine qui avait été si fortement ébranlé par les guerres, l'inflation, etc. Alors le problème, c'est qu'il y a une formidable inertie, on en est resté là depuis. On a même continué de développer des mécanismes de détaxation de revenus du patrimoine dans les années 80-90, alors que la justification n'existe pour ainsi dire plus du tout.
Bonsoir. J'aurais souhaité savoir si le phénomène que vous décrivez, tant dans les niveaux que dans les tendances, s'est également produit chez nos voisins européens, voire aux États-Unis.
Oui, alors... Dans la plupart, alors malheureusement, les mêmes recherches n'ont pas été menées dans tous les pays, donc je ne peux pas vous répondre parfaitement précisément, mais ça semble, tout ce qu'on sait par exemple sur l'Allemagne indique que le même phénomène s'est produit de façon encore plus massive, hein, sans surprise, hein, c'est-à-dire qu'en 1945, vous n'avez pas beaucoup de patrimoine élevé en Allemagne, enfin beaucoup moins qu'avant. Donc on observe des évolutions très similaires. Alors, par contre, dans les pays anglo-saxons, évidemment, les chocs des années 14-45 ont été beaucoup moins forts, en particulier aux États-Unis, ils ont été beaucoup moins forts parce qu'il n'y a pas eu de destruction sur le sol américain ou peu, enfin beaucoup moins sur le sol britannique. En même temps, il faut voir que la crise des années 30 a été beaucoup plus forte, encore plus forte aux États-Unis qu'en France, et donc les faillites ont été très importantes. L'inflation a également été très forte pendant cette période, comme en France. Et puis il y a eu des chocs fiscaux très forts. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on a complètement oublié, mais en fait, les États-Unis, en particulier, ont d'une certaine façon joué au yo-yo avec leurs riches tout au cours du XXe siècle. C'est-à-dire les États-Unis ont été beaucoup plus loin que la France et que la plupart des pays européens en termes de progressivité de l'impôt pendant très longtemps. Il faut savoir que des années 40 à la fin des années 60, le taux le plus élevé de l'impôt sur le revenu aux États-Unis, c'est 91%, sans compter les impôts des États. En France, ce niveau de 90%, il a été atteint pour quelques années isolées, mais jamais pendant 30 ans de suite. Ce qui a été le cas aux États-Unis, hein, du début des années 40 à la fin des années 60. Et puis, il y a eu une très forte réaction dans l'autre sens, dans les années 70, qu'il faut relier à l'impression que les États-Unis se faisaient rattraper par les autres pays, rattraper par les pays européens, ce qui, de toute évidence, n'avait rien à voir avec leur impôt progressif, puisque les pays européens avaient finalement quelque chose d'assez comparable. Et puis, il y avait des facteur de rattrapage beaucoup plus évident. Quoi. Les Américains avaient commencé à avoir des frigidaires dans l'entre-deux-guerres, les Européens s'y sont mis dans les années 50. Bon, voilà, il n'y a pas beaucoup de... Tout cela n'est pas très mystérieux. Mais en même temps, bon, il y a eu une réaction politique très forte, disons dans les années 70 aux États-Unis, contre tout ce qui était associé au New Deal, associé à ce qui avait été mis en place à la suite de la crise des années 30. Et ça a amené à une très forte remise en cause de l'impôt progressif. Avec pour conséquence le même mécanisme que ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais en sens inverse. Je suis désolé, c'est écrit en anglais, mais donc là, vous avez la part... Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait après le livre sur la France, donc ce n'est pas dans le livre. Là, vous avez la part des 1% des revenus les plus élevés en France. Là, vous avez aux États-Unis. Donc on voit qu'en France, le choc dû aux guerres a été beaucoup plus fort. C'est-à-dire on baisse beaucoup plus bas que là, aux États-Unis. En même temps, la crise des années 30 est plutôt plus forte aux États-Unis. Puis surtout aux États-Unis, vous voyez, depuis les années 70, vous avez une très forte remontée de la part des 1% des revenus les plus élevés dans le revenu total. Et finalement, en 1998, les États-Unis sont pratiquement revenus au niveau d'inégalité de l'entre-deux-guerres. Ils sont encore un petit peu en dessous, mais enfin, c'est pratiquement le même niveau. Et ça, c'est un phénomène qui s'explique en partie, pas seulement, mais en partie, par justement les nouvelles possibilités de constitution de revenus de patrimoine très élevés donnés par l'abaissement des taux d'imposition. Donc il y a des différences très importantes entre pays et qui s'expliquent en partie justement par l'impôt progressif.
Une petite question sur votre conclusion. Vous regrettiez que les statistiques de Bercy ne vous fournissent pas beaucoup de matériel pour travailler. Est-ce que les statistiques de Bercy ont lu votre livre et vont vous fournir plus de données à partir de maintenant ?
Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, l'administration des finances, chaque année depuis 1914, fait de façon quasi automatique, a continué pendant sous Vichy d'ailleurs sans rien ne change, fait des dépouillements de déclarations au niveau des départements. Et ça, l'administration continue de le faire. Simplement, ce qui a changé, c'est que ces dépouillements, depuis le début des années 80, ne sont plus publiés. Alors qu'avant, ils avaient été publiés pendant 70 ans dans des bulletins statistiques qu'on pouvait trouver dans n'importe quelle bibliothèque. Depuis le début des années 80, ne sont plus publiés, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont plus publics. C'est-à-dire qu'en fait, légalement, juridiquement, ce sont toujours des documents publics, parce que ce sont des documents qui contiennent aucune information nominative. Il n'y a aucun secret d'aucune sorte qui est traduit. Le fait de savoir qu'il y ait 300 personnes entre tel ou tel revenu, bon, ça ne donne aucune information individuelle. Simplement, c'est vrai qu'elles sont plus difficiles d'accès. C'est-à-dire qu'il faut savoir exactement ce qu'on veut. C'est-à-dire si vous appelez comme ça la DGI, vous dites oui, j'aimerais bien avoir ces dépouillements statistiques, on vous envoie promener, quoi, typiquement. Alors qu'en fait, ces sources existent. Et là, je crois que c'est important de signaler qu'il y a eu une dégradation des conditions d'accès à ces domaines qui sont assez forts. Alors je ne sais pas si ça va changer. Moi, je crois que ça. C'est important d'essayer de le dire. Quoi. Il ne suffit pas, parce que très souvent, on dit bon, voilà, il n'y a pas assez de statistiques, on ne nous donne pas assez accès, mais ça, c'est un petit peu rituel et c'est trop général pour être efficace. Donc, il faut être plus précis, et là, il faut dire clairement qu'il y a eu, c'est pas qu'il n'y en a pas assez, c'est qu'il y a eu une dégradation. C'est-à-dire que c'est pas simplement que ça peut être mieux dans d'autres pays un peu idéalisés, c'était mieux en France avant. Donc, ça s'est dégradé dans le même pays. Et là, c'est quand même un peu bizarre quand même.
Thomas Piketty, je vous remercie.